à l'artillerie, il y avait une personne qui s'en allait, qui changeait de poste, et elle s'occupait à l'axiométrie, justement, de tout ce qui était traitement des informations, des mesures faites par l'axiométrie. Comme j'étais taulier, que je maîtrisais les outils informatiques, elles se sont dit, ça colle, quoi. Du coup, je suis allée la remplacer. Et c'est là que, du bâtiment en fer au bassin 10, au bureau d'études sous-marins, je me suis retrouvée au sacro-saint, l'artillerie navale.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve.
À l'axiométrie, j'étais. Ça s'appelait Top Top. Alors, l'axiométrie, ça s'appelait Top Top parce que. Alors, ils travaillaient beaucoup à bord des bateaux. Et ils faisaient des mesures. Alors, la mesure de base pour un bateau, ça s'appelle un marbre. Et le marbre, c'est ce qui est le point zéro en 3D d'un bateau. C'est la surface de référence qui dit qu'on est à l'horizontale à zéro, perpendiculaire. Et du coup, toutes les mesures qui se font avec les armes, parce que quand on met une grosse tourelle de sang, eh ben, il faut qu'elle soit bien à plat dans le bateau pour pouvoir tirer juste. Donc, il faut que les surfaces planes soient exactement à la même planitude. Et donc, le métier des top-top, c'était de vérifier que tout était clair, que le support de l'arme était parfaitement en adéquation avec la planitude du marbre de référence du bateau. Et donc, les gars, ils étaient à quelques étages de différence, puisque le marbre était presque en bas du bateau, et les armes étaient sur le pont. Et du coup, c'était avec des casques. Et ils étaient avec un... Pour avoir le niveau, pour avoir la mesure pile, donc ils étaient avec leur casque et leur micro, top, 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 top.
Il faut que tu dises que le bateau était à flot, donc il bougeait.
Donc il bougeait.
Donc la bulle du niveau bougeait. Et quand la bulle arrivait pile poil au zéro, ils disaient top.
Voilà.
Top, top. Donc, donc ils ont été surnommés top, top.
Les top, top.
Et donc vous, quel était votre travail dans ce service-là?
Alors mon travail à l'axiométrie, c'était de... Donc on m'emmenait quand même de temps en temps à bord pour que je vois de quoi il en retournait. Mais moi, c'était de récupérer toutes les mesures que les gars avaient faites, qui étaient... Si on prend des mesures, des points. Parce que là, ils travaillaient avec des théodolites comme les géomètres. Et donc ils vérifiaient que les courbures étaient bonnes, que les distances étaient bonnes. C'était vraiment un travail de mesure et de vérification.
De quoi?
Ah, des bateaux, ça pouvait être des anneaux des bateaux. Donc,
Des plans de pose.
Après, à l'axiométrie, on était beaucoup sur la construction neuve.
Ah, ouais.
Donc, du coup, c'était pour vérifier que c'était similaire à ce qu'on attendait du plan. Donc, c'est une vérification de code, quoi. Et du coup, les gars, ils allaient mesurer ça. Donc, ils prenaient plein de points avec un logiciel. Je ne sais plus. On travaillait avec du matériel Leica. Et après, moi, je recevais ces fichiers de points. Et moi, je les mettais en forme pour qu'ils soient compréhensibles, quoi, sous forme de dessin, de tableau Excel. Et moi, je faisais plutôt la partie traitement après. Et du coup, ouais, après j'ai fait mes deux enfants. Puis ben, comme les gars ont pris l'habitude de... Le matériel aussi informatique s'est modernisé. Donc les gars ont pris l'habitude de traiter. Ils faisaient les mesures et ils apprenaient aussi à les traiter derrière. Donc quand je suis revenue après de ma deuxième maternité, ben, j'avais plus de boulot. Donc j'ai été voir mon chef pour lui demander du boulot. Et puis il m'a dit, ben, est-ce que tu veux bien retourner à la production? Donc c'est là que je me suis retrouvée mécanicien crotal. Donc crotal, c'est une arme. Et donc là, j'ai été formée avec mes matelots, avec Jean-Pierre Larvor, Patrick. Et du coup, ces gens-là avaient une sacrée patience, quand même, parce que moi, à la base, j'étais pas mécano. Bon, pas de difficulté de lecture pour les plans, hein, puisque j'avais l'habitude, mais ben, la mécanique, ça s'apprend. Après, tout est dans la mécanique d'arme et très cadré. On doit démonter, mesurer, vérifier que c'est les bons frottements, tout ça, et on remonte, quoi. Donc c'est quand même assez cadré.
Et tu t'es bien intégré.
Et je me suis bien intégré. Et après, ce qui s'est encore passé, là c'était baisse du plan de charge. Et on était dans une réintégration pour une meilleure maîtrise des stocks des pièces de rechange. Du coup, pareil, on m'a proposé, puisque je maîtrisais bien l'informatique, je connaissais les pièces, que ce soit mécanique, tôlerie, tout ça, on m'a proposé d'intégrer ce qu'on appelait, nous, le magasin. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était pas la supply chain, c'était du travail pour la supply chain. Ça restait comme en interne de l'artillerie. Moi, donc, je travaillais beaucoup avec les préparateurs. Et c'était la mise en place de l'ERP que j'ai préparé aussi. Voilà. Me voilà arrivé magasinier. Et j'avais un de mes collègues, Jean-Michel, qui me disait, c'est pas un métier, ça. Parce que lui, c'était un vrai mécano, Jean-Michel.
Ah oui, chef d'équipe.
Ben, il n'est pas fait chef d'équipe, mais il aurait dû. Oui, bon.
Parce que juste du coup, sur votre congé maternité, il dure combien de temps, votre...
J'ai eu mes deux enfants, j'ai eu une fille en 2000 et la deuxième en 2002.
Ouais.
Donc, je sais plus combien de temps, j'ai dû avoir en mai, puis reprendre le boulot en septembre, quoi.
Et ce temps-là, juste ce temps-là, a fait que...
Bah, je pense qu'il y avait le temps, puis le fait que, je vous dis, les outils informatiques aussi ont évolué, quoi. Donc, du coup, quand je suis revenue, le métier que je faisais, il était fait directement par les opérateurs qui faisaient les mesures. Donc, je me tournais un peu les pouces. Mais comme c'est une grande maison, je ne suis pas restée longtemps me tourner les pouces, j'ai trouvé autre chose, quoi. Enfin, j'ai trouvé, on m'a aidé aussi à trouver autre chose. Après, dans notre entreprise, il y a une chose dont on n'a pas parlé non plus, c'est comme je disais quand on est arrivé au BF, celui qui ne se plaisait vraiment pas à son travail, il y avait des concours, quoi. Et un concours, c'était des concours administratifs, donc c'était des maths, des physiques, du français. Moi, j'en ai connu qui ont sacrément bossé, et ils ont bossé à la maison où ils allaient en cours le samedi matin, s'il y avait la formation continue, il y avait les cours le samedi matin. Donc, celui qui ne se plaisait pas, je trouve qu'il y avait matière à changer de travail. Il y avait le concours Pyro aussi, qui permettait d'avoir un avancement beaucoup plus rapide. Donc là, il y avait le gars passait le concours, le gars ou la fille passait le concours, après, et il y avait un cours
après
à...
Après les tests.
Ah oui,
test psy.
Après, il y avait donc le concours, après il y avait des tests, et après il y avait... Donc là, il y avait un an de formation sur Toulon. Par contre, ça donnait un déroulement de carrière accéléré. Donc les gars et les filles étaient intéressés. Donc il y avait ça, il y avait le cours Pyro. Donc je trouve quand même qu'il y avait... parce qu'il y en a qui sont restés peut-être un peu aigris à leur poste après les apprentis, mais je trouve qu'il y avait possibilité dans l'entreprise d'évoluer. J'avais des collègues tauliers aussi qui ont fait plongeur. Et ce n'était pas plongeur des mineurs, par contre c'était plongeur scaphandrier, et eux c'était pour réparer ou chercher... Ouais. Donc, parce que maintenant on est dans les générations actuelles, je pense que les jeunes disent souvent « Ah, ben c'est bon, j'ai fait le tour, quoi. » Tandis qu'avant, je pense qu'il y avait une bonne équipe, il y avait un boulot clair à faire. Et là, les syndicalistes qu'on est aussi, ils disent souvent ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est du sens au travail. Avant, tu commençais un boulot, tu le faisais, tu le terminais. Maintenant, souvent, on passe un peu du coq à l'âne. Il manque toujours quelque chose. Et du coup, à la fin de la journée, des fois, on n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas fait ce qu'on pensait faire. Tandis qu'avant, c'était beaucoup plus... c'était plus régulier, plus réglo. Mais je pense que c'est la vie actuelle aussi qui a fait que la vie au travail a drôlement changé. Mais du coup, ça change trop souvent. Donc, on peut pas être concentré parce qu'on veut faire quelque chose, il manque quelque chose, ou alors on a plein de chefs aussi. On a des niveaux hiérarchiques. On a un chef hiérarchique et puis après on a des chefs, comment ils appellent ça? Ouais. Donc finalement on dépend de plusieurs personnes. Donc il y a une qui va dire bah tiens, ça faut que tu finisses ce soir. Et puis après l'autre chef va nous dire ah ben ouais, mais il y a le bord de tel bateau frame qui m'a appelé et puis tu as ça à faire. Donc du coup on va du coq à l'âne, c'est jamais prêt. On arrive sur le bateau, c'est pas prêt. Et je pense qu'avant c'était beaucoup plus carré. De temps en temps, il y avait une équipe bord, une équipe bateau. Donc, il y avait ceux qui faisaient le dépannage. Et par contre, ça tournait. Parce que les métiers, il y en avait qui préféraient, qui étaient plus sereins à rester tout le temps au poste de travail, à l'atelier. Et d'autres qui aimaient bouger. Mais il y avait un équilibre qui se trouvait. Tandis que maintenant, je trouve que c'est assez, entre guillemets, décousu. ça, souvent ça manque de sens. Et on passe, et quand ça fonctionne pas, on réorganise quoi. On a connu des entreprises qui fonctionnaient à l'ancienne, peut-être qui avaient sûrement besoin d'être modernisées. Mais là, je veux dire, on dit souvent chez nous, il y a plus de barreurs que de rameurs quoi. Il y avait le magasin central où là, c'est eux qui reçoivent, qui rangent et qui nous fournissaient aussi les matériels. Et normalement, les trois quarts du matériel qui servait au magasin sur l'atelier, il était disponible aussi pour les gars parce que des fois, il y a des choses qui étaient anticipées, mais des fois, il y avait besoin des choses, un joint qui avait cassé, quelque chose comme ça. Donc les gars venaient chercher directement. Donc c'était vraiment... c'était un magasin au service de la production, quoi. Et après, ils ont décidé que tout ça, ça allait au magasin central et avec des étiquettes et des... Et du coup, il n'y a plus ces petits magasins dans les ateliers. Il n'y a plus que les grands magasins centrales. Et maintenant, ils ont inventé ce qu'ils appellent des ZLP, des zones de logistique de proximité. Du coup, il y a quand même des gens de la supply dans les ateliers qui réceptionnent les kits, qui les scannent, qui les enregistrent, qui les sortent. Parce que tout doit être tracé maintenant. Maintenant, quand une pièce arrive à l'entreprise, elle est réceptionnée, elle a un numéro de lot pour l'entreprise. Et je vais donner l'exemple des tôles ou des barres qui servent à l'usinage. Il y a les numéros de PV de coulée avec le certificat de coulée, donc avec combien de pourcents de matière il y a. Donc, on a la qualité qui est arrivée là-dessus, on est obligé de tout tracer. Et ça, je pense que c'est aussi dû à la mondialisation, parce qu'avant, les aciers ils venaient d'Europe. Donc maintenant, les aciers viennent du monde entier. Donc on est obligé de prouver tout le temps que ce qu'on monte à bord d'un bateau, c'est bien conforme à ce qu'on a dit qu'on monterait au bord du bateau. Donc alors là, avec l'informatique, ça aurait dû supprimer le papier. Bon, on en a 10 fois plus. Voilà. Mais du coup, mon rôle de chef d'équipe, moi, c'était quand même de mettre en place ces kits pour que la production travaille et les pièces en temps et en heure. Et je trouvais ça, c'était très valorisant, quoi. Mais après, il y a eu une réorganisation, et puis ils ont dit que le poste en tant que tel a été supprimé. Je pense que ça a été un gros coup dur pour moi à l'époque. Et puis on a eu un petit peu avant aussi, les magasins, souvent c'était des gens qui venaient finir leur carrière ou qui avaient eu des soucis de santé, tout ça, donc on appelait ça des postes doux. Donc des gens qui étaient plus en capacité de porter des charges lourdes ou de travailler physiquement, il y avait des postes de repli comme ça en logistique. Et là, ils ont décidé que c'était terminé, que c'était plus à faire en interne. Ils ont dit, ça, c'est externalisé. Donc, depuis quelques années, les magasins, maintenant, sont c'est des boîtes privées qui... C'est sous-traité, c'est externalisé. Donc ça aussi, nous les vieux de la vieille, on a un petit peu de mal parce qu'il y a plein de choses qu'on faisait avant. On ne sous-traitait pas beaucoup. Il y avait des métiers où sous-traiter, hein, pour tous les grands carénages, tout ça, avec, comme tu disais, avec Bastide, Naftis, tout ça. Là, oui, il y avait de la sous-traitance. Mais autrement, il y avait quand même plein de métiers où il y avait assez peu de sous-traitance. Et maintenant, il y a énormément de sous-traitance. Il faut faire toujours des bateaux et on est moitié moins de monde. Donc... Et à cette époque-là, on a perdu énormément de compétences. Et après, pendant des années, avant le changement de statut, on n'avait plus le droit d'embaucher. Ah, du coup, on a perdu des gens, on avait du boulot à faire, mais on n'avait plus personne pour le faire. Et après, quand on a eu le droit à nouveau d'embaucher, le savoir était en partie perdu déjà. Et moi, je trouve qu'on rame toujours depuis cette époque-là. Mais à cette époque-là, on a eu les primes pour dégager, les dégagements des cadres. Après, on a eu donc le Proxima. On a aussi les départs amiante aussi, hein, qui ont vidé la capacité.
La perte brutale de compétences, ouais. Quand les gens ils partent comme ça, parce qu'ils sont sur des systèmes où ils ont travaillé toute leur vie et du jour au lendemain, on n'a pas anticipé.
On va aller rencontrer les autres salariés des autres sites de Peugeot, les copains de Renault, les copains de Ford aussi qui sont là, de Goodyear, et on va essayer de discuter avec eux, de parler et pourquoi pas faire une grosse grève générale.
Ce qui est incroyable, c'est que quand on entend les slogans de chacun, on a tous les mêmes. Et alors, le cas de Sanofi, qui est le cas d'école, puisque c'est une entreprise qui fait 9 milliards de bénéfices et qui quand même supprime des emplois, c'est honteux. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que c'est partout pareil. Hein.
Il y a beaucoup de consternation parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que ça continue.
Je m'étais occupée de l'intégration de tout le matériel, d'une partie du matériel à l'artillerie, notamment pour les tourelles de 100 mm. Parce que je ne sais plus, il y avait 14 000 lignes, je crois, pour les, ça veut dire 14 000 lignes de pièces pour un carénage de tourelles. Et donc, ils ont décidé que finalement, le magasin ne devait
plus... Une tourelle de 100.
Et ils ont décidé que les magasins ne devaient plus dépendre des ateliers, ils devaient être intégrés à la supply chain, la logistique. On nous a dit... Parce qu'entre-temps, on a eu le changement de statut aussi. Hein. Parce qu'avant, on avait une gestion financière qui était certainement moins rigoureuse, puisque c'était, notre seul client, c'était l'État.
Et le pire, c'était l'État.
Donc, quand on est passé sur le statut privé, ça n'a pas été si rose que ça non plus. On nous a dit, vous allez voir, ça va être super. Vous pourrez acheter ce que vous voulez, quand vous voulez. Parce que les marchés publics, il y a des contraintes, hein, il faut passer des offres, il faut les valider, tout ça. Vous avez dit, ah, quand vous avez passé public, là, ça va être formidable. Tout comme si quelqu'un ne fait pas l'affaire, c'est pas comme vous, les ouvriers d'État, qu'on ne peut pas virer. Quand ce sera du privé, là, hop, si le mec ne fait pas l'affaire, on pourra faire ce qu'on veut avec. Mais finalement, on s'est retrouvé au changement de statut. Ben, ce n'était pas si bien que ça. Du coup, heureusement qu'on avait des gens qui avaient le savoir encore, parce que le temps qu'on passe d'un système où on avait des pièces qui étaient fournies par la marine, tout ça, pour entretenir notre matériel, après il fallait qu'on en achète d'autres, mais il fallait que tout ça soit approvisionné. On est passé d'un système où avant qu'on soit privé, ils avaient tellement verrouillé qu'on n'avait plus de marge de manœuvre. Heureusement qu'on avait des vieux stocks pour faire tourner des pièces détachées. Donc après, il y a eu un trou quand même. Mais on nous a vendu le privé comme quoi ce serait merveilleux.
On a eu un gros souci avec le magasin, c'est que quand toutes les normes sont arrivées, là, et tout ce qu'on avait au magasin, c'était périmé.
Ah, ça aussi.
C'était infernal. Bon, juste au moment où on faisait un carénage, on avait besoin de... Et ça n'avait pas été anticipé. Les commandes, ben, ça a été un problème.
Parce que du coup, quand vous passez chef d'équipe, vous êtes passé au magasin, vous.
Ah oui, du coup, je suis restée géographiquement toujours à l'artillerie, mais par contre, je suis passée chef d'équipe des magasins de la pointe. Donc, il y avait le magasin de l'artillerie, celui de l'hydraulique et celui de l'électroméca.
T'es sûr que les jeunes, actuellement, ils savent qu'est-ce que c'est l'artillerie ?
Non.
Nous, on parle toujours de l'artillerie depuis qu'on est là.
Du coup, déjà l'artillerie, ça s'appelait, quand moi je suis arrivée, ça s'appelait armes navales et ça s'appelait ATP, les ateliers de la pointe.
Ouais.
ATP, on appelait ça. Et maintenant, après, ils ont appelé ça B08. Ils ont commencé à moderniser. Et je pense aussi pour enlever cette tradition à laquelle on est attaché. Hein. Je pense que tout ça, c'est pensé par des grosses. Ouais. De mettre des numéros, je pense. Donc, du coup, ça s'est appelé le B08, le bâtiment 8 de B.
C'est aussi pour la discrétion. Pour l'artillerie, ça veut de suite dire ce que ça veut dire. Donc, je pense que. Mais après, les numéros. Mais dans notre tête, d'où ça arrête l'artillerie, ça sera toujours l'artillerie.
Et du coup, ils ont appelé ça donc B08. Et là, il y a eu un gros souci parce que il y a un bassin qui s'appelle le bassin 8, qui est le bassin où on carène les sous-marins, enfin les hyper. Et bien, on fait toujours le bassin. Ah non, c'est le bassin 10, tu dis. Moi, je dis bassin 8. Et du coup, au bassin 8, des fois, il y a des accidents. Et les pompiers, quand ils voyaient B8, et ben, ils n'allaient pas au bassin 8, ils venaient à l'artillerie parce qu'il s'appelait le B08. Donc, on nous a rebaptisé B18.
C'est ça l'histoire.
Donc, finalement, à côté de nous, il y a l'hydraulique qui est B06. Après, tu as les batteries, c'est B05. L'électroméca, c'est B01. Et puis, tout d'un coup, on passe à B18. Parce qu'à côté, tu as le B12, B13, mais B18, il est arrivé. Le B20, enfin... Donc oui, c'est juste à cause des services de secours.
Et l'artillerie, c'est qu'elle sait. Géographiquement, elle était bien placée parce que nous, qu'on aille en Pinfal ou qu'il y ait des flottilles, parce que c'était là qu'ils étaient les bateaux, on était au milieu.
Vous êtes au niveau du pont de l'Artelois, c'est pas ça ?
Non, on est en face de. L'artillerie est en. On dit toujours l'artillerie, nous. En face de. Du comment ça s'appelle ? Du château, de la préfecture maritime. Ouais. On est juste en face. C'est là, il y a un grand logo Naval Group.
C'est à l'Orient, où nous venons de célébrer la mise sur cale de la première frégate de défense et d'intervention, que j'ai souhaité vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. L'année 2021 est profondément marquée par la décision de l'Australie de renoncer au projet que nous avions bâti avec eux depuis plus de 5 ans. Ce choix politique n'enlève rien aux efforts considérables que nos équipes ont réalisés. Leur engagement nous permet de rester fiers du travail accompli. Notre priorité est désormais de les soutenir, de leur permettre de rebondir, de négocier aussi avec notre client les conditions de cette résiliation. Rebondir, c'est ce que l'ensemble de l'entreprise a su faire dans une année intense, en inscrivant l'innovation et la coopération dans une perspective de temps long.
Quand on était nommé chef d'équipe, nous, les ouvriers d'État, on avait une formation de chef d'équipe obligatoire. Et à l'époque, avant moi, ils faisaient le tour de tous les ports, il me semble. Et quand moi, je suis arrivée, c'était les débuts, donc on avait déjà changé de statut. Donc moi, j'ai fait une formation, entre guillemets, de management qui était reconnue par l'UMM. Donc on a fait une formation qui était, on a eu une formation, puis on a passé devant un jury, et donc j'ai eu, j'ai un
diplôme. Un examen quand même.
Là, une sorte d'examen. Tandis que les chefs d'équipe avant, ils avaient une formation obligatoire, mais il n'y avait pas un il n'y avait pas un examen. Il y avait sûrement quelque chose, tandis que là, c'était entre guillemets pas diplômant.
Donc c'est vraiment votre travail qui a fait que vous êtes parvenu à devenir chef d'équipe.
Oui, c'est le fait que j'étais à la supply, que sans doute j'étais très intéressée par ce que je faisais, et très demandeur aussi de faire progresser les choses. C'est pas être prétentieux, je pense pas, mais j'aimais bien ce que je faisais, moi. Et du coup, comme j'ai un contact assez facile, et peut-être aussi que c'était fait pour faire passer les choses aussi. Peut-être que si de mettre quelqu'un qui était déjà intégré un petit peu, plutôt que de mettre quelqu'un qui aurait débarqué comme chef d'équipe de la supply chain que personne ne connaissait, peut-être que ça n'aurait pas du tout passé dans les ateliers. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. Mais c'était pas quelque chose, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. C'est pas quelque chose que j'ai cherché. Après, j'étais très fière quand même, ça c'est sûr, mais... Voilà, j'ai trouvé dur après quand on m'a retiré le management. Ouais.
Et vous avez eu combien de personnes du coup sur votre autorité ?
6 personnes.
D'accord.
Et ma chef aussi, c'était une jeune femme qui était ingénieure, Virginie, là, et on s'entendait très bien. Et c'est vraiment une belle période. Hein. Après, j'ai eu des difficultés avec un gars quand même, j'ai pas eu le soutien, parce qu'on a des RH là. Là, j'ai pas eu beaucoup de soutien. Le gars m'a fait quelques... C'était difficile, très difficile.
Parce que vous étiez une femme ou pas forcément.
Je pense que ça a été pire parce que j'étais une femme. Mais bon, le gars était tombé dans une grosse dépression, tout ça. Et du coup, ouais. J'ai eu une période difficile quand même. Là, on se demande... Et puis, on a eu la période championship aussi. Alors là, où on avait un directeur qui s'appelait, directeur groupe qui s'appelait, un PDG qui s'appelait Boissier. Alors là, ça a été aussi championship. Là.
C'est quoi championship?
C'était le nom de son projet de transformation de l'entreprise. Et j'adhérais pas beaucoup. D'ailleurs, ce gars-là, il venait de Saint-Nazaire, où il n'avait pas brillé. Et il a été remercié de chez nous aussi, de Naval Group. Et puis, c'était M. Guillou qui est arrivé après comme PDG, qui avait beaucoup plus de connaissances et de terrain. Ouais, je pense. Ouais, et puis qui connaissait la maison. Voilà. Boissier, lui, c'était... Enfin, ce monsieur-là qui a voulu transformer, je pense qu'il n'a pas fait du bien. Et notamment sur Brest. Hein, je pense que dans sa tête, on avait vocation plus qu'à s'occuper des sous-marins de Lillon. Donc ça n'aurait pas représenté grand-chose. Et avec Guillou, quand même, là, à Brest, on a perdu les bureaux d'études qui étaient partis à Lorient. Enfin, on a perdu la construction neuve. Enfin, on a eu des chocs quand même, je trouve.
France, le lancement du programme des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération incarne pleinement cette idée du temps long. Ces sous-marins navigueront jusqu'à la fin de ce siècle. Avec le SNLE 3G, les sous-marins nucléaires d'attaque, les frégates de défense et d'intervention, le porte-avions de nouvelle génération, les patrouilleurs océaniques, nous préparons l'avenir pour la Marine nationale. Et pour préparer demain, nous apprenons d'aujourd'hui, comme c'est le cas avec la réparation du sous-marin Perle dont nous avons tiré beaucoup d'enseignements pour viser toujours plus de sécurité dans nos chantiers.
Et quand j'étais plus jeune militante, il y avait en la CFDT, on faisait une belle journée, qui, c'était le 8 mars, c'est la journée de la femme, et on faisait, il y avait on n'appelait pas ça des séminaires, mais ça nous est arrivé, on faisait des journées militantes avec les femmes, mais avec des hommes aussi, mais justement pour faire progresser les femmes dans le milieu du travail. Et faire progresser les femmes dans le milieu du travail aussi, c'est donner l'horaire variable, c'est une facilité aussi. Là, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Je sais que nous revendiquons d'avoir aussi du temps pour les femmes quand elles ont leurs règles, parce que des fois elles sont très malades et tu dois t'absenter de ton travail, c'est pas de ta faute. Qu'il y ait aussi des facilités dans l'entreprise parce que ça fait partie de la vie, parce que nos décideurs, c'est souvent des hommes, mais ce sont aussi des papas, ils devraient. Et c'est là que je trouve que ils sont pas très compréhensifs, quoi. Il y a aussi ça. Oh, c'est déjà pas mal. Alors, t'es quoi ? Alors, il y avait quand même des copines qui ont réussi à faire les cours de T4, T5, T5, mais bon déroulement de carrière, hein. T4, pour une fille, c'est bien, quand même. C'est pas mal. Il y avait ce genre de réflexion, là. Ah, c'est pas mal pour une fille. Ou alors, les gars, ils comprenaient pas, parce que... Alors, il y a eu aussi, dans notre entreprise, il y avait beaucoup de couples qui se faisaient. Donc, c'était... Il y avait les camps des apprentis qu'on a parlé aussi. On n'a pas parlé de ça. Ça, c'était aussi de la cohésion. On en a parlé tout à l'heure. Et du coup, il y avait beaucoup de couples. Et puis, des fois, dans le couple, il y avait monsieur qui faisait des cours ou pas et qui faisait technicien, ou madame qui faisait technicien. Mais, oh, pourquoi elle fait technicien ? Pourquoi elle réclame de l'avancement ? Son mari est déjà T5 bis ou T6, quoi. Parce que le conjoint avait un bon niveau de carrière, la femme devait... Et ça... Bon, on le sent moins maintenant parce que les gens sont embauchés de l'extérieur, donc on ne connaît pas. Alors c'est pareil, avant, nous, les vieux ouvriers d'État, on savait qui était quoi. Hein. S'il était ouvrier en 5, en 6, combien d'échelons il avait, c'était affiché.
La prime
et tout. Enfin, donc c'était très transparent. Maintenant, c'est les gens sont embauchés. S'ils ne veulent pas dire sur quel niveau ils sont embauchés et combien ils touchent. Tandis qu'avant, c'était comme... C'était beaucoup plus transparent, notamment pour les commissions d'avancement. Pour décider qui avance, bon, c'est évidemment la direction qui choisissait le plus, hein, c'est comme ça, mais il y avait une commission d'avancement paritaire, moitié direction, moitié syndicat. Et le dernier mot était au directeur. Donc, c'était paritaire. Tandis que maintenant, quand les gens qui sont ce qu'on appelle, nous, en convention collective, tout ça, c'est... Il y a un entretien qui est fait avec leur chef. Le chef remonte ses désirateurs pour faire monter les gens. C'est discuté après avec les chefs de département et puis le service RH. Mais tout ça, c'est fait en toute discrétion. Après, le gars, il l'a pas. Tandis qu'avant, c'était fait devant le syndicat, quoi. Donc, à la limite, le mec, s'il trouvait que c'était... Ou le mec, la personne, s'il trouvait que c'était injuste, et notamment pour défendre des femmes qui... qui étaient à temps partiel, c'est pas un argument, quoi, puisqu'elles sont payées qu'à temps partiel. Et bien ça, les syndicats le disaient à la direction. Et c'est là que maintenant, ça c'est des choses que malgré un accord d'entreprise qu'on a, ça c'est des choses, le côté paritaire, il n'y a plus. Et moi je trouvais que c'était un bon arbitrage, je trouve. Et ça permettait de rattraper des gens, des fois, qui étaient oubliés. Et ça permettait de défendre les femmes aussi.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.